Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 28 décembre avec vous Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse. Au cours de cette émission, le journal, les sports, le ZAP France, on parlera de la santé du corail néo-calédonien. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi 28 décembre, la Nouvelle-Galles du Sud a signalé 6062 cas de coronavirus et un décès. Le Victoria a enregistré 2738 cas de coronavirus ainsi que 4 décès. Le Queensland supprime l'obligation pour les voyageurs de passer un test PCR lors de leur 5e jour dans l'État. New South Wales Health a modifié les règles qui s'appliquent au personnel de santé exposé au COVID-19 dans la communauté ou sur le lieu de travail. Les membres du personnel de santé considérés comme travailleurs essentiels et qui sont des contacts étroits d'un cas positif pourront désormais quitter l'isolement et retourner au travail après 7 jours en attendant un test PCR. Négatif au 6e jour. Auparavant, ces employés étaient en isolation pendant 14 jours. Quelques nouvelles restrictions pour lutter contre le COVID-19 ont été réintroduites en Nouvelle-Galles du Sud hier lundi 27 décembre. L'enregistrement par le QR code est redevenu obligatoire pour les lieux d'accueil tels que dans les cafés, les restaurants et les centres commerciaux, mais uniquement à l'entrée principale et non pas dans les magasins individuels. Des limites de densité s'appliqueront aux restaurants, aux pubs et aux clubs avec une personne par 2 mètres carrés. Les restrictions resteront en place jusqu'au 27 janvier prochain. On écoute Dr Christine Selvey de New South Wales Health.
Please remember that masks are now compulsory in all indoor, non-residential settings, including for hospitality staff and in offices, unless eating or drinking. From today, QR code check-ins are also compulsory. Hospitality venues, including pubs, clubs, restaurants, and cafes, must have only one person per 2 square meters indoors.
Le Queensland supprime l'obligation pour les voyageurs de passer un test PCR lors de leur 5e jour dans l'État. La ministre de la Santé du Queensland, Yvette Duff, a annoncé que le gouvernement supprimerait le test du 5e jour pour les personnes qui ont voyagé d'un État à l'autre, bien que les demandes de laissez-passer aux frontières exigent toujours que les voyageurs acceptent le test. Madame Duff a déclaré que les gens devraient dire oui à cela, mais qu'ils n'ont pas besoin de passer le test à moins qu'ils ne présentent des symptômes de COVID-19.
Now I do want to, and the Deputy Commissioner will talk a little bit more about this, advise people who are travelling from interstate that the border pass itself will still require you to commit to doing a day 5 test. So please say yes to that, because that will be the way that you still get your border pass.
En Western Australia, les règles en vigueur pour lutter contre le coronavirus concernant le port du masque dans les lieux publics à l'intérieur, les règles autour la restauration et l'hospitalité ont été prolongées jusqu'au 4 janvier prochain. Les discothèques seront fermées pour le réveillon du 31 décembre. Les festivals de musique ont été annulés. Écoutez le chef de WA, Mark McGowan.
Based on the number of close contacts associated with the recent outbreak, who are still waiting on test results, and the concerning nature of the outbreak amongst the Perth backpacker community, we are not out of the woods just yet. As a result, the current rules will be extended until 6 a.m. Tuesday, January 4. This gives us the best chance to potentially eliminate this outbreak in our community and ensure we can continue to have a relatively normal and safe holiday period.
La professeure et virologue Marie-Louise McLaws a déclaré que le gouvernement fédéral et les gouvernements des États et territoires du pays auraient dû être mieux préparés concernant la propagation du variant Omicron pour la période des vacances de Noël qui, selon elle, allait être toujours un événement de grande envergure.
They should have been giving out free rapid antigen testing from pharmacies so that people can use those if they don't have symptoms. Now, please don't use rapid antigen tests if you have symptoms. They are fantastic for screening, that is to ensure that you are negative when you feel negative before you go somewhere. And that would have helped as especially to reduce the cost of a PCR and the cost of staffing as well.
En Australie, malgré l'augmentation des cas de COVID-19, les Australiens devraient dépenser un record de 21 milliards de dollars dans les soldes jusqu'à la mi-janvier. Un communiqué de l'Australian Retailers Association indique que ce chiffre est en hausse de 2,1% par rapport à 2020 et de 12,6% par rapport à 2019 avant la pandémie de coronavirus. La situation du Covid ailleurs dans le monde, avec en France, et suite au Conseil de défense sanitaire hier lundi, plusieurs mesures vont entrer en vigueur. Les détails tout à l'heure dans le Zap France. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il n'introduirait pas de nouvelles restrictions pour l'Angleterre avant la fin de 2021. Le ministre de la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu'il réévaluerait la situation au cours de la nouvelle année hier. Il y avait 98 515 cas de COVID détectés.
Of course, we look at the data on a daily basis. That hasn't changed over the Christmas period. But there will be no further measures before the new year. We won't be taking any further measures. Of course, people should remain cautious as we approach New Year celebrations. And, you know, take a lateral flow test, if that makes sense. Celebrate outside if you can. Have some ventilation indoors if you can. Please remain cautious.
Le président américain Joe Biden a promis le plein soutien du gouvernement fédéral aux États confrontés à une augmentation du nombre de cas de COVID-19 dû au variant Omicron et un soutien à une série de tests à domicile. La ville de New York, elle, oblige les employés de la ville, les enseignants, tous les employés du privé à être vaccinés contre le COVID-19. La décision du maire Bill de Blasio est entrée en vigueur hier lundi. Lubna Anaki pour Radio France Internationale.
Dans son magasin de souvenirs à Manhattan, Saïd se dit prêt. Ses employés sont déjà tous vaccinés.
C'est comme ça, on doit suivre les règles. Tout ce que je veux, c'est faire tourner ma boutique. Donc faites-vous vacciner et venez acheter des choses chez moi.
Si l'obligation vaccinale ne change rien pour lui, il estime qu'elle est nécessaire, surtout pour les métiers comme le sien, au contact des clients qui parfois sont eux-mêmes non vaccinés.
Certaines personnes sont totalement contre le vaccin, donc c'est une bonne idée.
Près de 200 000 entreprises sont concernées par cette nouvelle obligation vaccinale. Ce sera au patron de faire en sorte que leurs employés soient vaccinés. Si l'un d'eux refuse, ils auront le choix, le licencier ou le garder en télétravail. Ils devront également tenir des registres avec les informations vaccinales de leurs employés. Si la majorité semble se plier à la règle, elle ne plaît pas à tout le monde. Mike travaille dans la construction, il est sur le point de se faire vacciner, mais estime qu'il n'a pas eu le choix.
C'est ça l'Amérique, la liberté de choisir. Les enfants peuvent être dirigés par leurs parents, mais on est des adultes. J'ai 58 ans.
Si cette nouvelle mesure est censée renforcer la lutte contre le Covid, il faut savoir que 90% des habitants de New York ont déjà reçu au moins une dose de vaccin.
Depuis dimanche dernier et pour une durée indéterminée, les spectacles et activités en intérieur sont fermés en Belgique, théâtre, cinéma, cirque ou salle de concert, et le monde de la culture est descendu dans la rue à Bruxelles pour manifester contre la gestion du coronavirus par les autorités du pays. Pierre Benazé, RFI.
Arrêtons la folie, la tyrannie Corona, vive la culture et l'industrie musicale. Pour Willy Van Der Beest, la ligne rouge a été franchie.
Leve de culture, de musique, industrie.
Marie-Odile Dupuis est venue du Brabant pour manifester. Elle n'a pas l'intention de fermer son lieu d'accueil pour le spectacle vivant.
On restera ouvert, on continue et on mettra un cordon sanitaire de gens devant le théâtre s'il faut pour empêcher la police d'intervenir. En tout cas, pour la première fois, on sent qu'au-delà des artistes, ici, aujourd'hui, le public est là aussi. Là, depuis 2 jours, les gens réservent de tous côtés. Ça veut dire que les gens se rendent compte que si la culture tombe, il y a un pan de la société qui s'écroule et c'est dangereux.
Parmi la foule, les musiciens se font particulièrement entendre, comme Benoît van den Beemden, contrebassiste, qui a déjà 2 concerts baroques annulés.
Sur ma pancarte, j'écris « injuste, incompréhensible, indécent, disproportionné, incompétence ». En fait, c'est notre sentiment par rapport aux décisions du gouvernement, donc qui a décidé la fermeture des salles de spectacle et des événements. C'est incompréhensible, en fait, parce que c'est pas du tout ce qui était mis sur la table par les scientifiques.
La fronde de la culture désarçonne les autorités. À Bruxelles, les bourgmestres ont décidé de ne pas demander à la police de contrôler si les spectacles ont effectivement fermé leurs portes.
L'Afrique du Sud est en deuil après le décès de l'archevêque anglican Desmond Tutu à 90 ans. Les obsèques de l'icône de la lutte contre l'apartheid auront lieu le 1er janvier prochain à la cathédrale St. George's du Cap. L'archevêque du Cap, Thabo Makgoba, a déclaré que les personnes devraient rendre hommage à Desmond Tutu dans leur propre communauté car les règles sanitaires limitent le nombre de personnes autorisées à y assister. Voici pour rappel le portrait de Desmond Tutu avec Alexandra Brangeon pour RFI.
Desmond Tutu, c'est vraiment l'infatigable défenseur des droits de l'homme. Premier évêque noir de Johannesburg, il met toute son énergie et son autorité spirituelle au service de la lutte contre l'apartheid. Durant ses prêches, il dénonce les brutalités policières lors des émeutes de Soweto en étant en 76. Il organise de grandes marches pacifiques contre la ségrégation raciale, ce qui lui vaudra le prix Nobel de la paix en 84 et ce qui va lui permettre d'alerter la communauté internationale sur ces violations des droits de l'homme dans le pays. Il devient ensuite le premier archevêque noir de la ville du Cap, une chaire qui là aussi va lui permettre de redoubler ses efforts pour dénoncer l'apartheid jusqu'à la chute de ce régime en 94. L'Afrique du Sud devenue libre, il continue, il préside la commission Vérité et Réconciliation chargée de faire la lumière sur les crimes durant cette période violente.
La marée noire à Maurice en 2020 suite au naufrage du Wakashio au sud-est du pays. Le capitaine et le second à bord ont été condamnés hier à 20 mois de prison. Les 2 accusés avaient plaidé coupables et avaient présenté des excuses. Le vraquier japonais avait relâché plus de 1000 tonnes de fioul dans les eaux mauriciennes. En Birmanie, un nouveau massacre le 24 décembre dernier. 35 personnes, dont des femmes et des enfants, étaient retrouvées, tuées et brûlées dans des véhicules calcinés. La junte militaire poursuit sa stratégie de la terre brûlée, comme nous l'explique Carole Izou pour RFI.
Tirs de mortier, combats au sol, véhicules incendiés. C'est désormais la guerre ouverte entre l'armée birmane, la Tatmadaw, et plusieurs milices armées, notamment l'Union nationale Karen, l'une des plus anciennes armées ethniques, et les forces de défense des nationalités Karen, un groupe nouvellement créé qui regroupe plusieurs sections de citoyens armés. Les soldats birmans sont aussi accusés de pratiquer des rafles. Si les affrontements durent depuis des mois, le retour de la saison sèche ces dernières semaines a rendu possible l'accès à de plus larges zones de combat. Des milliers de villageois ont fui vers la Thaïlande voisine. Plus de 5000 d'entre eux ont été autorisés à rester sur le sol thaïlandais pour raisons humanitaires. Un geste inhabituel qui reflète la gravité de la situation. L'armée a annoncé renforcer sa présence dans la province frontalière de Tak. Les villageois habitant trop près de la ligne de front ont la possibilité de venir s'installer dans des temples et des hangars plus à l'intérieur des terres.
Un mot de sport avec l'Australie qui remporte la série des test matchs des Ashes contre l'Angleterre et la course nautique Sydney-Hobart devrait prendre fin ce mardi. C'est un duel pour le moment entre Blackjack et Lord Connect. On passe à la météo pour ce mardi en Australie à Perth. Il fera très chaud, 39 degrés. Adélaïde, 29. Melbourne, 24. Hobart, 22. Canberra, 21. Sydney, 23. Brisbane, 26. Cairns, 31. Darwin, 32. Et à Alice Springs, maximale de 35 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 28 décembre. La Nouvelle-Galles du Sud a signalé 6062 cas de coronavirus et un décès. Le Victoria a enregistré 2738 cas de coronavirus ainsi que 4 décès. Et le Queensland supprime l'obligation pour les voyageurs de passer un test PCR lors de leur 5e jour dans l'État.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports, et on commence eh bien, avec du football. Cette nouvelle qui est tombée il y a juste quelques heures, les clubs de Paris FC et de l'Olympique Lyonnais, tous les deux disqualifiés de la Coupe de France. Il y avait eu des heurts entre supporters lors de la première mi-temps de ce tour de Coupe de France. Le match avait dû être interrompu à la mi-temps. Eh bien, le coup près est tombé, les deux clubs sont tout simplement éliminé, Christophe Jousset.
Les deux clubs se renvoyaient la balle. La Fédération française a tranché. Les deux sont fautifs. Aucun ne jouera les 16e de finale de la Coupe de France. C'est l'Olympique Lyonnais qui est le plus lourdement sanctionné. Déjà impliqué dans la soirée violente du 21 novembre qui avait vu tomber sur la pelouse le Marseillais Dimitri Payet, touché par une bouteille d'eau, le club de Jean-Michel Aulas paye pour le comportement de ses ultras qui auraient cherché à en découdre dès leur arrivée en gare à Paris le 17 décembre. Ce soir-là, dans les tribunes du stade Charletti aux portes de la capitale, des jets de fumigène suivis de bagarres et de mouvements de foule avaient provoqué l'arrêt définitif de la rencontre à la mi-temps. Non seulement l'OL se voit éliminé de la Coupe de France, mais il est en sursis pour l'édition de la saison prochaine. D'autre part, pour tous les matchs encore à jouer à l'extérieur dans la saison en cours, y compris en Ligue 1, l'OL devra se passer de ses supporters. Le parquage visiteur sera fermé. Quant au Paris FC, qui, après les incidents, réclamait des mesures radicales contre la violence, il est également déclaré perdant et il écope notamment d'une suspension de 5 matchs fermes de son terrain, le stade Charletti.
Christophe Jousset pour RFI. Allez, on continue sur le football. Alors avant de passer un tour d'Europe, on va faire un bilan des dauphins du Paris Saint-Germain puisque le PSG domine littéralement le championnat de Ligue 1. Eh bien faisons un point et un tour d'horizon sur les dauphins donc du Paris Saint-Germain avec Naïm Moniol.
Donc le PSG, on l'a dit, leader sans grand enthousiasme. L'avance, elle est surtout comptable. 13 points d'avance sur ses poursuivants. Ses poursuivants Nice et Marseille. Est-ce que ce sont des dauphins dangereux ?
Non, absolument pas. Vous l'avez dit, il y a 13 points d'écart. Il faudrait que Paris perde pendant un mois et demi. Non, non, c'est pas dangereux. Le haut de tableau derrière le PSG est très serré. Que les équipes se suivent, Rennes est en embuscade. Je pense que jusqu'à Lens, qui est à 27 points, 9e à 27 points, les équipes doivent se tenir en 6 points. Donc c'est pas des rivaux dangereux pour le titre. Par contre, ça promet une course à la Ligue des Champions au podium absolument fabuleuse. Les autres surprises, on a Lens. C'est quand même une des équipes qui joue le mieux en Ligue 1, si ce n'est celle qui joue le mieux, avec notre chouchou bien sûr Fofana, qui aurait pu être Primark et bien Fouet l'année dernière, qui sera peut-être cette année. Il y a Kakuta. Lens, c'est un coach formidable, une équipe qui joue bien.
Et en deuxième partie de tableau, on retrouve notamment Lyon. Qu'est-ce qui coince ? C'est quoi ? C'est le nouveau coach ?
Non, c'est pas le nouveau coach. Ce qui coince à Lyon, c'est je pense que la toute-puissance de Jean-Michel Aulas est en train d'atteindre ses limites, voire même les a déjà franchies. C'était l'homme fort du club, c'est devenu l'homme dangereux du club, qui justement enquête un petit peu trop sur la communication, sur l'image, qui a la prétention de vouloir parler un petit peu à tort et à travers sur des sujets qu'il ne maîtrise pas, notamment les débordements de supporters. Donc je pense que c'est un club qui vit, oui, sa plus mauvaise saison depuis 20 ans. Il faut faire quelque chose parce que On ne peut pas avoir une bonne Ligue 1 et une Ligue 1 compétitive sans un grand Olympique lyonnais, c'est pas possible.
Et justement, vous l'évoquiez à l'instant, ces débordements en tribune, est-ce qu'ils auront finalement éclipsé les performances sur le terrain en ce début de saison, tous ces débordements journée après journée ?
Éclipser les performances sur le terrain, non, parce qu'on a vraiment eu un beau championnat cette année, on voit vraiment des belles choses, des belles équipes, des beaux matchs. Par contre, ce que ça confirme, c'est qu'on a des instances dirigeantes, une gouvernance, une ligue absolument faible, inutile. Donc non, ça n'a pas terni l'image du foot parce qu'on a vraiment une belle demi-saison, mais il va falloir faire quelque chose parce que si ça va finir comme à l'époque au PSG, il y aura des morts à côté d'un stade. Et puis ce jour-là, on dira on avait prévenu. Donc il faut absolument faire quelque chose, quitte à fermer les terrains, quitte à mettre une série de points en moins, des grosses amendes, mais faisons quelque chose parce qu'on a la chance d'avoir un championnat qui retrouve des couleurs au moment où le championnat allemand est un peu terne, au moment où le championnat espagnol est devenu très moyen. La France pourrait avoir une carte à jouer en vue de la nouvelle Ligue des Champions, de la nouvelle réforme qui arrive. Et au final, tout ce qu'on est capable de montrer au monde du foot, c'est qu'on a des abrutis dans les tribunes et personne pour les mettre au pas.
Allez, direction maintenant le tour d'horizon du football européen, puisque la France est en trêve hivernale. Direction l'Angleterre, puisque c'est le seul championnat à ne pas s'arrêter pour les fêtes. Retour sur le Boxing Day, un Boxing Day perturbé par le Covid, comme nous l'explique Philippe Auclair et Sarah Loubacouche.
10 matchs sur 30 reportés lors des 3 dernières journées. 3 de plus ce dimanche. Des entraîneurs eux-mêmes touchés par le virus, comme Gérard et Vira, qui sont positifs. 2 matchs qui devaient se jouer mardi prochain viennent eux aussi d'être reportés. Cette semaine, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, inquiet pour la santé de ses joueurs, évoquait la possibilité d'une grève. Ça aurait été possible pour ce Boxing Day ?
Non, ça n'aurait pas été possible parce qu'un mouvement de ce type, d'une part, serait inédit et d'autre part, il faudrait un consensus, un accord de l'ensemble de la profession, donc des entraîneurs, des joueurs, des clubs, et ça n'est pas le cas. Patrick Vieira, par exemple, on a parlé, le pauvre vieux qui lui aussi était absent pour cause de Covid, mais il a dit non, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. Mais malgré tout, ça commence à devenir très préoccupant parce que la situation sanitaire en Angleterre ne s'améliore pas, c'est moins qu'on puisse dire. Ces matchs reportés, comme vous le disiez, s'accumulent de week-end en week-end. Il y a des clubs qui ont joué 19 matchs de championnat, d'autres qui vont terminer ce week-end avec 16. Il va bien falloir les caser quelque part, ces 3 matchs. On a un calendrier dingue avec les demi-finales de la Coupe de la Ligue qui arrivent, la FA Cup qui va commencer, la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment, qui va nous intéresser au plus haut point. 6 clubs anglais sur 7 qui sont encore en Europe. Et avec ça, une saison qui est une date butoir pour se terminer, puisque on a la Coupe du Monde au Qatar en 2022, ce qui signifie qui est au mois de novembre, au mois de décembre, ce qui signifie qu'on a avancé la saison 2022-23 en Angleterre, qui n'aura jamais commencé aussitôt qu'elle commencera l'année prochaine. Donc, il y a un vrai énorme problème qui est en train de se créer. Et très honnêtement, si vous me demandez quelle est la solution, en ce moment, je n'en ai pas. C'est un casse-tête pour les organisateurs du football anglais.
Allez, direction maintenant le championnat d'Espagne et le bilan de cette première partie de saison avec Sofiane Namanzian et Sarah Loubacouche.
Escale en Espagne où le Real Madrid domine outrageusement le championnat, Sofiane.
Et seul au monde comme les Madrilènes, Sarah Lou, leader incontestable et incontesté, avec 46 points glanés en 19 journées. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont déroulé à l'image de Karim Benzema, auteur de 13 buts et de 7 passes décisives. Mais c'est surtout son duo avec le jeune Brésilien Vinicius Junior qui fait des étincelles, déjà 10 buts pour l'ailier et ses victimes, pas des moindres, le FC Séville ou la Real Sociedad. Notamment.
Derrière, loin derrière le Real, les deux clubs de Séville se partagent le podium.
Et 8 points, c'est ce qui sépare le Real du FC Séville, solide dauphin juste devant son rival le Betis. La surprise de ce début de saison, les coéquipiers du Français Nabil Fekir espèrent décrocher une première qualification pour la Ligue des Champions depuis 2005.
Et du côté des déceptions, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone.
Et une équipe quasi inchangée, un entraîneur de renom qui a pu compter sur le retour de son joyau Antoine Griezmann cet été. Pourtant, l'Atlético est quelque peu palote, seulement 5e avec 29 points. Les Colchoneros ne sont pas à la hauteur de leur titre de la saison passée. Et du côté du Barça, on s'y attendait, Sarah Lou. Le départ de Lionel Messi a fragilisé le groupe. Ronald Koeman débarqué. C'est la légende Xavi qui a repris le flambeau. Résultat, une 7e place à seulement 2 points du 4e.
Ah, voilà donc pour l'Espagne. Et vous en doutez, maintenant direction l'Italie, puisque c'est le 3e gros championnat européen. direction l'Italie. Donc avec le bilan, encore une fois, de cette première partie de saison avec Sofiane Namandian.
Et on prend les mêmes et on recommence. Hein. Le champion en titre, l'Inter, termine la phase aller en tête du classement avec 46 points. 4 unités seulement devant le Milan AC et c'est Naples qui complète le podium.
Et la Juventus dans tout ça ?
La vieille dame, elle tout saute, hein, Sarah Lou, cette année. Hein, mais après un début de saison raté, les hommes de Massimiliano Allegri se sont réveillés. La preuve, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. La lutte pour la qualification en Ligue des Champions s'annonce d'ores et déjà passionnante en Italie, puisque seulement 6 points séparent l'Atalanta 4e de la Fiorentina 7e.
Voilà donc pour le football pour aujourd'hui. Allez, avant de conclure ce journal des sports, eh bien, on va parler de rugby. Le championnat de France, le top 14, eh bien, a été tout simplement interrompu pour le moment pour cause de Covid. Anne Mignard.
Trois rencontres devaient avoir lieu ce dimanche, mais le Covid est venu perturber leur organisation. 2 d'entre elles ont été reportées. Brive, Clermont et Toulouse, Stade Français, une des affiches de celle de la saison. 9 cas ont été détectés au sein de l'effectif du club parisien et la Ligue nationale de rugby n'a pas eu d'autre choix que de reporter le match. Il n'y avait pas d'autre choix possible, estime le président de la Ligue, René Bouscatel.
C'est vraiment un crève-cœur, mais on ne peut pas faire autrement. Et je voudrais que les choses soient claires. Avec le Omicron, on n'en est plus à compter le nombre de cas. Au Stade Français, oui, il y en a 9, mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est la cinétique de la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, il y en avait 1, et ce matin, il y en a 9. Et tout l'effectif n'avait pas été encore testé. Il y a une progression exponentielle de jour à jour. Donc il y a un véritable danger de faire jouer ces matchs. Le Stade Français, comme les autres équipes, seront mis à l'isolement pendant 7 jours. C'est assez catastrophique et dommageable en cette période. Mais malheureusement, on ne commande pas la nature. On ne peut que s'incliner.
René Bouscatel au micro de nos confrères de RMC.
Voilà donc pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on retrouve Jean-Noël dans le reste du programme dans quelques instants. A tout de suite.
Le Zap France, les sonores de l'actualité française. On en parlait dans le journal après la tenue d'un conseil de défense sanitaire ce lundi matin et l'adoption ensuite en conseil des ministres du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Le Premier ministre français Jean Castex et Olivier Véran, le ministre de la Santé, ont tenu une conférence de presse. Ils ont annoncé de nouvelles restrictions face à la vague actuelle de Covid-19, le variant Omicron qui se transmet à grande vitesse en France. Pas de confinement, mais des mesures contraignantes comme le retour du télétravail. Le Zap France, avec entre les paroles du gouvernement de la radio France Info.
La tendance sur 7 jours glissants est aujourd'hui à plus de 70 000 cas. Le taux d'incidence national est ainsi supérieur à 700, soit au plus haut depuis le début de la crise.
C'est aussi le retour des jauges, pas plus de 2000 personnes en intérieur, 5000 à l'extérieur.
Dans nos établissements de santé, le niveau d'hospitalisation continue sa progression.
Un nouveau point sur l'info avec Frédéric Beignada.
La riposte du gouvernement face à la 5e vague épidémique et face à la propagation du variant Omicron, avec un soulagement pour de nombreux parents. Les vacances scolaires ne sont pas prolongées comme le demandaient certains politiques et scientifiques. La rentrée scolaire prévue le 3 janvier ne sera pas reportée.
Limitons les grandes fêtes et les grands dîners. Portons le masque, aérons les pièces, respectons les gestes barrières. Tout. Toutes mesures de bon sens qui font confiance à notre sens des responsabilités.
France Info. Les annonces du gouvernement ce soir et notamment du Premier ministre Jean Castex pour tenter d'enrayer cette flambée de l'épidémie de Covid, notamment due au variant Omicron.
De 3 semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire, dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de 3 jours minimum par semaine et si possible 4 jours.
Le retour des jauges en revanche pour les grands rassemblements limités dès lundi à 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur. La consommation dans les cafés et les bars interdite debout. Le retour également du port du masque dans les centres-villes.
Elisabeth Borne, la ministre chargée du travail, mènera demain une concertation avec les partenaires sociaux. Par ailleurs, l'obligation du masque, déjà partout applicable à l'intérieur, sera étendue et mieux respectée, notamment dans tous les centres-villes. Les préfets adopteront les dispositions correspondantes en lien avec les maires.
Toutes ces mesures vont s'appliquer pour au moins 3 semaines. L'option couvre-feu pour la Saint-Sylvestre, en revanche, était écartée.
Le Conseil des ministres a aussi adopté tout à l'heure le projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal. S'il est adopté par le Parlement, il s'appliquera dès le 15 janvier. Ce soir, Santé publique France annonce plus de 30 000 nouveaux cas de Covid, contre 15 000 la semaine dernière. Plus de 3 300 personnes sont hospitalisées en réanimation.
Restons rassemblés. Restons déterminés. Il n'y a pas d'autre voie pour faire face, surmonter cette pandémie. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé.
Merci monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, nous faisons face, vous l'avez dit, à 2 vagues simultanées. Il y a d'abord le variant Delta, on le connaît. Mais alors même que nous menons cette bataille, ce nouveau variant est arrivé, le variant Omicron, en provenance d'Afrique australe. Et c'est un variant qui circule si vite qu'à l'inverse des précédents variants, nous n'avons pas suffisamment de recul en provenance de pays qui auraient été touchés avant nous pour maîtriser totalement les tenants et aboutissants de ce variant.
Nous prémunir le plus possible de cette désorganisation potentielle liée, comme vous l'avez bien compris, à la contagiosité très forte de ce variant.
Les maires les appellent, les médecins généralistes ont les fichiers de tous ces patients et les appellent, essayent de les convaincre. Les infirmiers au domicile font beaucoup de vaccinations de personnes âgées isolées, les familles, les amis, tout l'entourage. Il y a un nombre de personnes, quelques centaines de milliers, alors on ne l'estime pas au chiffre près, mais il y a encore des personnes qui sont âgées et qui refusent.
La primo-vaccination reste la mère de nos priorités, parce que, comme dirait l'autre, c'est difficile d'avoir sa troisième dose si on n'a pas eu sa première.
Dernier point de complément sur cette réponse longue. Ne croyez pas qu'il y a en réanimation des gens qui ont 80 ou 90 ans non vaccinés. Parce que j'entends le discours qui consiste à dire qu'il suffirait de vacciner les personnes fragiles qui ne le sont pas encore et de ne pas demander aux autres de se faire vacciner. Factuellement, c'est faux. Factuellement, si vous allez dans un service de réanimation, vous allez voir aussi des gens qui ont 40, 50 ans. J'y étais la semaine dernière, on s'y rend régulièrement avec le Premier ministre. Et je me permets, c'est pour ça que je reprenais la parole, pour les femmes enceintes. On a un sujet avec des femmes enceintes qui parfois ne se font pas vacciner parce qu'elles ont peur pour leurs petits ou parce que parfois elles sont mal conseillées, mal orientées. Je refais passer le message, j'ai promis aux équipes de réanimation de le faire passer. Des équipes à Paris ou ailleurs qui ont des femmes enceintes, qui ont fait des Covid graves, parfois avec des conséquences pour le fœtus, pour le nourrisson et pour la mère. Ce sont des situations de vie absolument terribles pour des soignants, même les plus expérimentés, et surtout pour les familles concernées. Donc vraiment le message, n'hésitez pas à vous faire vacciner si vous êtes enceinte. C'est plus que possible, c'est recommandé.
Maintenant, direction la Nouvelle-Calédonie pour parler de la santé du corail néo-calédonien qui se porte mieux que le corail australien. Et je passe l'antenne à nouveau à Christophe pour une rediffusion de ce reportage avec Maël Imri-Zaldou de Conservation International.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On est ici donc avec Maël, on va parler de conservation dans la marina de Nouméa. Quel bel endroit pour pouvoir en parler, excellent, je crois qu'il n'y a pas mieux. La conservation des poissons, des coraux, c'est primordial pour la Nouvelle-Calédonie, mais c'est primordial pour la planète.
Effectivement, en fait, Quand on va parler de nos récifs, nos poissons, nos ressources, nos habitats, tout ça, la mangrove, les forêts, on va parler d'un capital. Un capital naturel qu'on partage tous, qu'on a tous en commun, on a ce capital-là et on essaye de le partager. Je parle de capital naturel parce que c'est un capital quelque part économique. Ça rapporte pour les pêcheries, par exemple, pour l'économie du tourisme, quand je parle de la mer, des lagons, des récifs, bien entendu. C'est un capital culturel, puisque finalement, notre culture calédonienne, notre identité calédonienne est construite autour de cette culture de la mer qu'on peut avoir, de cette pêche qu'on aime faire, de ce lagon qu'on aime visiter, de ces plongées qu'on aime faire. Au niveau même culturel, au niveau de la culture mélanésienne aussi, effectivement, c'est l'environnement est la base de tout, est la base de l'organisation sociale, est la base des mythes, des légendes. Donc finalement, ce capital dont je parle est un capital naturel, un capital économique, un capital culturel, un capital santé quelque part, puisque finalement, si on est en bonne santé, c'est parce qu'on a aussi un environnement autour de nous qui nous protège, qui nous fournit des biens et des services qu'il faut préserver. Donc tout l'enjeu finalement en Calédonie, et c'est l'enjeu un peu, c'est notre travail de conservation internationale en Nouvelle-Calédonie, c'est de travailler non seulement avec les communautés, puisque ce sont les gens qui sont les premiers concernés finalement par ce capital naturel, mais travailler avec les communautés, travailler avec les décideurs politiques, travailler avec les institutions qui sont en charge de la gestion environnementale, travailler aussi avec le secteur socio-professionnel, puisque ce sont aussi ces opérateurs-là, ces gens-là qui sont les premiers concernés, travailler en fait finalement avec cet ensemble de personnes pour arriver à avoir des pratiques responsables et des pratiques durables, de manière à ce que ce capital-là, on l'entretienne, on le préserve dans un premier temps, on l'utilise, parce qu'on l'a toujours fait, mais on l'utilise de manière responsable et raisonnée, pour être sûr que nos enfants demain et leurs enfants après-demain continuent à profiter de ce capital-là comme nous on en profite et comme nous on aime en profiter.
Alors, vous ne l'avez pas dit au micro, moi je le sais, vous vivez en Australie, vous travaillez aussi pas mal ici, donc beaucoup d'allers et retours. Il y a une différence entre l'approche écologique d'un pays comme l'Australie et y compris les Australiens et l'approche écologique d'un pays comme la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens. Vous voyez une différence, vous qui êtes partagé entre les deux cultures?
D'accord, alors c'est une réponse un peu difficile c'est une question un peu difficile à répondre, dans la mesure où l'Australie, c'est très grand. Et donc, entre un Australien de Sydney ou un Australien du Bush ou un Australien de Brisbane ou de Perth, il va y avoir des différences, comme en Calédonie aussi, entre le nord, le sud et les îles. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu délicat à répondre. De ce que j'en vois, et depuis longtemps, dans le domaine des lagons, des récifs et de la gestion environnementale, l'Australie a longtemps été un leader. Elle est toujours, parce qu'il y a des universités qui produisent des scientifiques et des personnes tout à fait compétentes, des modèles. Donc l'Australie, depuis des années, a toujours été un modèle en termes de gestion. C'est le premier site, la Grande Barrière de Corail, le premier patrimoine mondial marin et le premier site récifal. Donc il y a quand même un historique de gestion dont on s'est tous inspirés pour construire ce qu'on fait ici en Calédonie. En l'occurrence, on s'est inspiré aussi de ce qui se faisait par ailleurs. Maintenant, ce que j'en vois, c'est qu'en Australie, on a beaucoup de place pour la science, pour l'université, pour l'académie et la recherche et la science. Mais de ce que j'en vois, d'un point de vue extérieur, c'est que l'aspect conservation, restauration, est peut-être un peu mis à la marge. C'est-à-dire qu'il y a, si je compare avec la Calédonie, on a des centres scientifiques, on a des gestionnaires, on a énormément aussi d'associations locales, d'ONG, de comités de gestion des différents sites patrimoine mondiaux. Donc finalement, on arrive à avoir beaucoup de monde impliqué dans la gestion environnementale à tous les niveaux que ce soit. Et c'est ça qui est important, en tout cas en Calédonie, c'est que comme ça que ça peut marcher. C'est qu'on a besoin d'avoir certaines autorités qui prennent des décisions et qui gèrent et qui prennent leurs responsabilités en termes de gestion. Mais on est obligé aussi de passer par une gestion qui part d'en bas et qui demande aux gens en Calédonie, qu'est-ce que vous voulez ? Et comment le faire ? Et avec qui le faire ? Parce que certaines zones, plus reculées, si on ne travaille pas avec les communautés locales, si on ne travaille pas avec les coutumiers, si on ne travaille pas avec les socioprofessionnels, avec tout le monde, on n'arrivera pas à faire avancer les choses. Donc un peu le recul que moi je peux avoir, et encore en toute humilité, hein, bien entendu, parce que mon expérience n'est que limitée, mais le recul que je peux avoir, c'est qu'effectivement, l'Australie a toujours été un modèle et l'est toujours, malgré quelques décisions et orientations politiques récentes qui ont coupé certains budgets, qui ont poussé un développement vers la mine, qui ont donc certaines décisions qui permettent de douter un petit peu, en tout cas, d'un avenir serein dans l'immédiat. Maintenant, l'Australie a encore cette expérience à partager avec beaucoup. La Calédonie, pour le coup, on bénéficie de cette expérience scientifique principalement, cette expérience en termes de gestion active et de suivi des récifs pour savoir est-ce que notre récif va bien. C'est pas parce qu'il est en bonne santé qu'il va bien. Peut-être que si on regarde sur un pas de temps plus long, on se rendra compte d'évolutions différentes. L'Australie est très bonne par rapport à ça. La Calédonie, son avantage, c'est effectivement d'avoir plusieurs acteurs, d'avoir différents types de contextes et donc du coup, avec tous ces acteurs, d'arriver à composer pour arriver à avoir une gestion qui soit intégrée dans la mesure où elle intègre toutes les composantes de la société. Et non pas que l'environnement, puisqu'on parle de l'environnement, mais l'environnement, en fait, finalement, c'est un socle commun qu'on partage tous, mais qui est mêlé au développement économique, à la culture, à la société. Donc c'est vraiment important d'arriver à mélanger toutes ces tranches de société et impliquer un peu tout le monde. Donc en Calédonie, on est assez bon là-dessus. Si on fait le point par rapport à d'autres zones dans le monde, en l'espace d'une vingtaine d'années, on a réussi à composer avec l'ensemble de ces couches administratives, l'ensemble de ces acteurs et l'ensemble de ces enjeux qu'on peut avoir pour réussir à avoir une gestion qui, à l'heure actuelle, est plutôt satisfaisante, même si, comme partout, on a souvent tendance à se dire en Calédonie qu'on est... Disons qu'en Calédonie, on a souvent tendance à se dire à pas avoir honte, mais on a tendance à se dire qu'on est un peu la ramasse, ou qu'on pourrait faire les choses mieux, ou qu'on devrait s'inspirer justement de l'Australie, ou qu'on devrait s'inspirer. Mais finalement, quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on n'a pas à rougir finalement de ce qui a été fait. Il y a encore beaucoup d'enjeux à relever, il y a encore beaucoup de choses à faire et à améliorer. Mais à l'heure actuelle, on est dans une position plutôt satisfaisante, avec des acteurs mobilisés, et qui, malgré certaines restrictions budgétaires, malgré certains changements politiques à venir, on a quand même une base assez solide et des personnes plutôt engagées. Donc on a un melting pot quelque part d'acteurs et de sujets qui font qu'on a un terrain de jeu assez intéressant en Calédonie et qu'on arrive encore à avoir des milieux qui restent plutôt préservés.
Si on parle du récif corallien, on a beaucoup entendu parler du déblanchiment, je ne sais même pas si ça existe, comme mot, le fait que le récif corallien ici avait blanchi et puis il s'est un peu régénéré, voire même régénéré massivement. Ce n'est pas du tout le cas en Australie. Ça ne veut pas dire qu'en Australie les choses sont mal faites, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui fait que peut-être la Nouvelle-Calédonie a été chanceuse là-dedans.
Tout à fait, c'est ce qu'il faut. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Quand on a un événement comme ça de blanchiment, en général, c'est des événements qui ont une emprise globale. On l'a bien vu, l'événement de blanchiment de l'année dernière a impacté l'Australie, méchamment, a impacté la Calédonie, mais a impacté nos voisins de Fidji de manière assez intense, le Vanuatu, bref, tout le Pacifique a été impacté par cet épisode de blanchiment, dû au changement climatique, dû à des températures qui se réchauffent, dû à un climat qui est un peu perturbé. Plusieurs raisons peuvent justifier ça et des scientifiques seront sûrement plus à même d'expliquer finement la raison. Maintenant, ce qui va jouer finalement sur la résilience d'un récif et le fait qu'un récif va se remettre d'une catastrophe naturelle comme un blanchiment, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la manière dont on va le gérer et dont on va gérer les impacts qui existent sur ce récif. Et l'autre facteur, ça va être finalement une position géographique, une position contextuelle. C'est-à-dire que la Calédonie, comparée à d'autres îles dans le Pacifique, on est assez bas en latitude. Donc on bénéficie finalement de courants froids qui remontent de du Pacifique Sud. On bénéficie de températures à l'année qui restent plutôt fraîches comparées à d'autres zones plus proches de l'équateur. Donc finalement, lorsqu'on subit un épisode de blanchiment, une pression forte, on a un récif qui va pouvoir, qui va accuser le coup, comme partout ailleurs. Maintenant, quand on a un récif qui est préservé de pression, quand on a un récif qui est aussi suffisamment grand pour pouvoir justement se régénérer, on va avoir ce qu'on appelle une résilience d'un récif, c'est-à-dire la capacité finalement à cet environnement, à ce récif, à se régénérer et à revenir à son état d'origine. C'est ce qu'on a observé en Calédonie. On a eu un épisode de blanchiment qui nous a pas mal préoccupés. Quelques mois après, les coraux étaient à nouveau en bon état. Je pense qu'en Calédonie, on a ce mélange de facteurs contextuels qui fait qu'effectivement, on bénéficie d'eau un peu plus fraîche. On a un gros lagon, un récif très long, donc un système assez grand qui fait qu'il est très résilient. Et on a aussi, quelque part, c'est l'autre composante assez importante, un récif qui va blanchir si derrière, il continue à avoir des pressions humaines, qui continue à avoir... Au-delà des eaux chaudes, qui continuent à avoir des eaux troublées parce qu'il y a des sédiments qui viennent du bassin versant qui est mal géré. S'il y a une activité de pêche trop forte et donc du coup moins de poissons pour finalement lutter contre les algues qui vont envahir le récif quand il est blanc. Bref, tout cet ensemble de facteurs-là aussi qui rajoutent des pressions sur le récif, si on ne les prend pas en compte, si on ne les gère pas, le récif il aura beaucoup moins de chances de revenir à son état normal que si jamais effectivement on a une gestion autour qui est bien faite.
Et de ce que vous savez, ce blanchiment de la grande barrière de corail, beaucoup de gens pensent que c'est irréversible. Il faut en avoir peur de ça, ou est-ce qu'on justement par le fait que le blanchiment s'est tout simplement inversé ici, est-ce qu'il y a des choses à apprendre? Peut-être qu'il y a un espoir pour l'Australie, ou ça devient quand même très tendu pour la barrière de corail australienne.
Ce qu'il faut comprendre en fait là-dedans, c'est que un corail, s'il vit, il vit en symbiose avec une algue en permanence. C'est cette algue-là qui lui donne ses couleurs, ses belles couleurs sur le récif. Lorsqu'il fait chaud, il y a un mécanisme tout naturel qui fait que le corail, l'anémone, la petite anémone de corail, va rejeter toutes ces algues en symbiose. Parce que finalement, elle consomme de l'énergie et que dans une situation de crise où le corail fatigue, il va essayer de trouver toutes les solutions de secours qui vont lui permettre de survivre. L'une des premières solutions, ça va être de relâcher ces algues-là qui lui consomment de l'oxygène, qui leur donne des bénéfices. Mais... Donc, on va avoir ce premier épisode de blanchiment, mais qui est réversible. Parce que le corail, il n'est pas encore mort. Il est encore vivant, il a juste plus ses algues, mais il arrive encore à vivre. Le problème, c'est que ces algues-là vont lui donner de l'oxygène, vont lui permettre de vivre. Donc il va réussir à rester pendant un petit moment comme ça, sans algues ou sans oxygène, ou avec un petit peu moins d'oxygène, mais arrive à un moment donné où ben, le corail, si la situation ne change pas, si l'eau est encore chaude, si le corail est encore stressé finalement, si le stress continue, eh bien, un stress prolongé, ça va provoquer une mort, parce que le corail ne sera plus à même de se régénérer, ne sera plus à même de récupérer ses algues symbioses, ne sera plus à même de générer l'oxygène, et finira par mourir. Alors sur l'Australie, eh bien, certaines zones vont pouvoir se reconstituer, mais des zones qui ont été blanchies et qui restent blanchies plusieurs mois après l'épisode, on va considérer ces zones mortes. Malheureusement, le récif est mort. Maintenant, en termes de régénération, c'est des phénomènes complexes. Il va falloir qu'il y ait assez suffisamment de poissons, suffisamment d'invertébrés, suffisamment de vie sur ce récif pour finalement pouvoir continuer à lutter et aider le corail à revenir.
Et donc, ça veut dire que bon, il reste un espoir pour l'Australie. À quel point l'activité minière, si je prends le Queensland, on sait qu'il y a énormément d'activités minières, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'implications en amont, mais aussi en aval de cette activité minière. On peut vraiment croire aujourd'hui que c'est ça qui a vraiment impacté le corail, ou ça fait partie d'un maillon qui a peut-être compliqué les choses?
De mon point de vue, et encore une fois très extérieur et pas complètement initié, mais de mon point de vue, l'activité minière, forcément, a un impact d'une pression importante pour un récif. Pourquoi ? Parce qu'une activité minière à site minier, ça va être un site mis à nu. Ça veut dire qu'en fait, tous les sédiments qui sont sur un bassin versant vont se retrouver dans le lagon, sur le littoral et dans le lagon, et puis avec le jeu des courants sur le récif, ces abrasions, ces sédiments vont avoir un effet voilà, abrasif sur le corail. Donc c'est une pression en plus. Si on rajoute à ça donc des pluies fortes sur un site minier, si on multiplie les sites miniers le long d'un littoral, ben on multiplie le risque de pression, on multiplie le risque d'avoir des sédiments qui vont arriver dans le milieu. On va multiplier le nombre de trafic maritime avec le nombre de bateaux qui vont passer dans la zone. Qui dit bateau dit risque de collision, dit pollution grise, les matières, les autres carbures, les matières grises. Donc il y a tout un ensemble finalement d'activités qui vont avoir un impact. On sait bien, une mine a un impact sur l'environnement. Une mine près du bord, près d'un récif, près d'un lagon, forcément aura un impact dessus. Donc si on rajoute sur une portion de récif assez réduite un nombre assez important finalement de mines et d'activités, même si elles sont gérées ces mines-là, il y a toujours de l'impact résiduel, et un impact résiduel cumulé avec un autre et avec un autre, et bien à force effectivement un récif qui va survivre à un épisode de blanchiment qui va être un peu fatigué, si en plus de ça il continue à avoir les pressions qu'il a tout au long de l'année qui s'ajoutent au phénomène de blanchiment, c'est clair qu'à un moment donné, le récif va commencer à demander drapeau blanc.
Ok, ben en tout cas, on vous souhaite bonne chance au récif. Merci Maël.
Merci beaucoup.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Et on vous laisse avec Candy Guira, Africa. Belle journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.